J'intitule le sujet que je pense traiter avec vous en trois séances, en considérant que la troisième pourrait être consacrée essentiellement aux entretiens. Je l'intitule « Notre attitude à l'égard de l'écuménisme ». Le mot est un mot piège, il est maintenant fréquent dans les grands médias, mais je crois que peu de gens lui donnent un sens extrêmement précis. L'étymologie ne nous est pas d'un très grand secours pour savoir ce qu'il signifie. Vous savez que le mot pourrait être, rendu mondialisme, car le mot vient de oikoumene, qui désigne la terre habitée, le monde des humains, dans la langue du Nouveau Testament, dans le grec du Nouveau Testament. Mais rappeler cette origine n'éclaire pas beaucoup. Je crois que nous ferons mieux de définir l'écuménisme, celui dont nous allons nous occuper, comme l'entreprise de rapprochement des églises chrétiennes ou dites chrétiennes, qui est un événement majeur de notre XXe siècle. C'est l'entreprise, c'est l'état d'esprit de ceux qui coopèrent, c'est le corps de doctrine qu'éventuellement ils veulent promouvoir, mais il ne nous est pas nécessaire d'entrer maintenant dans beaucoup plus de détails. Une triple distinction s'impose dès qu'on a défini les choses comme je viens de le faire. L'écuménisme peut désigner principalement les rapports des églises protestantes, l'église orthodoxe aussi, mais elle ne nous concerne peu, avec l'église romaine, avec le catholicisme romain. Notre attitude à l'égard de l'écuménisme orienté vers le catholicisme et Rome, je pense réserver ce sujet à la fois prochaine, donc n'en pas parler aujourd'hui. C'est peut-être le sujet le plus brûlant, je ne sais pas, mais je vous annonce déjà que dans mon projet, c'est plutôt pour la séance de novembre, du 18 novembre je crois, que le sujet est fixé. L'écuménisme peut concerner nos rapports, à nous, chrétiens évangéliques et tabernaclais, avec les églises affiliées au Conseil écuménique des églises, qui réunit maintenant environ 300 unions d'églises, églises ou unions d'églises comme nous dirions plus tôt, protestantes et orthodoxes, orthodoxes au sens oriental. Le Conseil écuménique des églises est l'expression majeure, mais non pas unique, de ce qu'on a appelé le mouvement écuménique. La question de notre attitude se pose essentiellement à deux niveaux, même peut-être en distinguer encore un autre et dire trois. Il y a la question de notre attitude à l'égard du mouvement mondial, du Conseil écuménique, qui est maintenant une puissance sur la scène publique, et la question de notre attitude au niveau national et même local. En France, la Fédération protestante de France regroupe pour à peu près 90%, je crois, de ceux qui en font partie, les mêmes qui sont aussi membres du Conseil écuménique des églises. Les églises, les grandes églises réformées, luthériennes, sont aussi affiliées au Conseil écuménique. Donc il y a une correspondance qui n'est pas une correspondance totale, parfaite, mais il y a une certaine correspondance entre l'organisme écuménique majeur au niveau mondial et puis la Fédération protestante de France. Et je pense que la question de notre attitude à l'égard de ce qui se fait sous l'égide de la Fédération protestante de France se pose. Que nous avons à considérer cela et pas seulement le Conseil écuménique. On peut même d'ailleurs s'interroger aussi sur les rapports locaux avec les paroisses des églises affiliées à la Fédération protestante ou au Conseil écuménique. Il y en a près de chez nous. Le troisième écuménisme qu'on peut envisager, c'est l'écuménisme inter-évangélique. Celui qui vise le rapprochement des églises évangéliques à notre sens, c'est-à-dire qui peuvent souscrire à une base doctrinale comme celle de l'Alliance évangélique mondiale et française. Je ne compte pas traiter ce sujet, sinon par la bande, du fait que la question de l'attitude à l'égard du Conseil œcuménique ou du catholicisme peut toucher aussi les différences entre évangéliques et donc le rapport entre eux. Je pense que le sujet n'est pas pour nous d'urgente actualité, que nous sommes à peu près d'accord que sur ce point il n'y a pas de débat majeur. Cependant, si je me trompe à cet égard, nous pourrons très bien mettre à l'ordre du jour d'une des prochaines séances, peut-être après, en février ou je ne sais, la question de l'écuménisme inter-évangélique, intra-évangélique, comme vous voulez. Mais je n'ai pas prévu, dans ces trois séances du dernier trimestre 84, de traiter ce point spécialement. Les choses se présentent tellement différemment de ce qu'elles sont pour les deux autres problèmes écuméniques que je crois que nous faisons bien de ne pas tout mélanger. À mes yeux, il s'agit pour nous plus spécialement de faire le point, je dirais, 20 ans après, 20 ou 30 ans après. Les évangéliques français ont déterminé leur attitude à l'égard de l'écuménisme, me semble-t-il, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, après, comme je vais le rappeler dans quelques instants, la fondation du Conseil œcuménique, après le grand chamboulement du catholicisme romain. Le livre de M. Pache sur l'écuménisme apparu en 1950. Il me semble que depuis, le sujet a été laissé comme un peu de côté. On a considéré que la position évangélique était maintenant bien établie, donc on savait ce que c'était, et puis on a couru sur la lancée, simplement. Je dirais, dans mon propre cas personnel, je m'en suis rendu compte, j'ai repris bien sûr mes notes, j'ai essayé, et je me suis aperçu que il y a 20 ans que j'ai été appelé à traiter ce sujet. J'ai traité de notre attitude à l'égard de l'écuménisme en 64, pour une pastorale, j'ai retrouvé mes notes. Je vous dirai si je trouve aujourd'hui avoir beaucoup de choses à changer. Mais depuis, non, je n'ai pas eu à traiter ce sujet. Il y a 10 ans, au congrès de Lausanne, dans le congrès mondial sur l'évangélisation, j'ai eu, en fait, à traiter de notre unité selon la Bible, donc un sujet relativement proche. J'avais précisément cette part du programme dans les séances plénières. Mais ce n'était pas quand même tout à fait le sujet que nous traitons aujourd'hui et les mois prochains. Il me semble significatif que pour les Français, en tout cas, le sujet était comme mis en sommeil, le débat était mis en sommeil pendant une vingtaine d'années. Et il me semble nécessaire aujourd'hui, parce que certains comportements, peu à peu, se sont mis à changer, pas tous, hein, mais il me semble nécessaire de voir si les positions arrêtées il y a 20 ou 30 ans sont toujours les positions à tenir, si la situation a tellement évolué qu'il nous faut remanier ce qui a été à l'époque jugé conforme à l'enseignement biblique et à la volonté de Dieu. Nous pouvons d'ailleurs aussi, indépendamment de tout jugement sur la situation, estimer aujourd'hui, après réexamen, que les principes bibliques ne conduisent pas exactement aux mêmes conclusions que celles que nos pères, ou nous-mêmes, il y a 20 ou 30 ans, nous avons cru justes. Hein, c'est aussi possible. C'est l'écriture qui est infaillible et non pas notre travail, ni autrefois, ni aujourd'hui. L'ordre logique dans l'étude de la question me semble le suivant. Je ne dis pas que je le suivrai de façon rigoureuse. Il me semble qu'il faut d'abord prendre connaissance des faits aussi exactement que possible. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur une situation avec la Bible seule, sans savoir ce sur quoi il faut faire porter l'application des principes bibliques. Donc il faut essayer de savoir ce qu'il en est, si on veut parler de l'écuménisme, de l'état des églises en cause, de leur rapport. Et il s'agit d'être sensible aux différents aspects de la question. Pas voir un seul morceau, un seul panneau, être sensible aussi à la complexité des choses. Ensuite, après cette tâche historique, d'histoire et d'histoire au présent, il y a la tâche proprement théologique. Il faut recevoir les directives fondamentales de la parole de Dieu. Car je crois que nous serons bien d'accord, il n'y aura pas de débat possible entre nous sur ce point, aucun compromis n'est concevable par rapport à ce que le Seigneur nous révèle comme sa volonté. La fidélité l'emporte sur toute autre considération. Ça, c'est sûr. Donc, tâche théologique, discernement de ce que Dieu nous dit de faire. Et puis, la troisième étape, c'est l'adaptation, en fonction de ces principes qui balisent notre chemin, mais qui ne l'indiquent pas dans le détail, l'adaptation de notre façon de faire à la situation présente, selon les règles de sagesse, ou peut-être plus exactement encore, de prudence au sens ancien. Vous savez, la prudence, ce n'est pas seulement la modération, la conscience de l'existence de danger et la prise de marge de sécurité. Ce n'est qu'un aspect de la prudence. La prudence, c'est l'application de l'intelligence à l'action, en fonction des moyens et des buts. L'homme prudent, c'est... Dans certaines vieilles versions du Nouveau Testament, en français, vous trouvez encore le mot employé de cette façon. C'est celui qui gère bien l'ensemble de sa situation. Il y a les principes, mais il y a aussi des questions prudentielles. Même si nous déterminons, par exemple, qu'il nous est entièrement libre, d'après les principes bibliques, de participer à fond au mouvement œcuménique. Je lance ça comme pure hypothèse. Il y aura encore la question de la gestion de notre temps, de nos forces, de nos ressources qui se posera. Même si nous disions il n'y a pas d'obstacle théologique majeur, nous aurions encore à nous interroger sur la rentabilité d'un investissement important de ce que nous avons à gérer devant le Seigneur. Ce genre de problème est à considérer, il faut y faire face. Il y a aussi de manière juste, les préoccupations d'image, comme on dit maintenant dans le monde de la publicité et de la propagande. Bien sûr, nous réagissons parfois négativement devant l'importance prise par le look des gens, des entreprises, etc., parce que c'est un monde du factice qui semble l'emporter sur la vérité. En même temps, je crois que nous avons à tenir compte de l'effet de l'image qui est projetée par notre comportement, parfois sans que nous en soyons conscients, sur les spectateurs, sur les gens qui sont alentour, ils en sont effectivement déterminés. Et ça peut constituer des blocages. Une image fausse de nous, par maladresse, par simple maladresse, peut empêcher de braves gens, dont nous devons avoir le souci par amour du prochain et désir de leur salut, peut empêcher de braves gens de comprendre ce que nous voulons dire, de recevoir de nous le message évangélique, par exemple. Donc, il faut nous préoccuper aussi de cette question-là, en faisant attention de ne pas vivre pour l'image, de rester toujours droit devant le Seigneur, mais en nous souciant de l'effet. Il y a certaines choses qui peuvent être légitimes et qui même, par rapport à nos ressources, pourraient être faites, mais qui sont trop dangereuses parce qu'elles vont créer des malentendus. Parce qu'elles vont entraîner un tel qui dira « Ah bon, ben, je peux faire ça si je vois... » C'est une préoccupation qu'il faut avoir parfois. Et interférant avec ces considérations, il y a les vocations particulières. Là aussi, je pense qu'on peut admettre que dans cette zone que les principes bibliques délimitent, il peut y avoir diversité de vocations. Le Seigneur peut demander... permettre, mais carrément demander à un tel un comportement qu'il ne demande pas à tous les autres. Bon, d'emblée, je dis tout de suite que je considère que c'est un peu le cas pour Billy Graham, que Billy Graham a des démarches et des initiatives qui me semblent correspondre à sa vocation très exceptionnelle, qui ne représente aucun véritable compromis de sa position personnelle. Ça, j'en suis sûr. Je l'ai approché d'assez près pour le savoir. Qui ne sont pas des compromissions, mais qui cependant ne devraient pas être imitées, me semble-t-il. Bon, je dis tout de suite, là, je déclare ma propre opinion. Mais je cite cet exemple pour montrer qu'il y a aussi une question de vocation individuelle qui intervient. On pourrait même s'interroger, là je vous laisse un point d'interrogation, sur des vocations particulières, mais pour une église cette fois. Pourrait-il être envisagé qu'une église ait une mission un peu hors du commun en la matière ? Dans un sens ou dans l'autre, dans le sens de la restriction, de l'avertissement, attention, attention, ou bien au contraire, dans le sens de rapprochement au moins de dialogue, vous voyez. Mais pour l'instant, je ne réponds pas à cette question. Je dis simplement qu'il serait bon de la poser. Malheureusement, je n'ai pas pu me préparer. Je consacre un certain nombre d'heures à cette séance de ce matin, mais je n'ai pas pu me préparer comme j'aurais voulu. J'aurais espéré en particulier réussir à mettre la main sur des documents récents des 10 dernières années. Et puis je n'ai pas réussi. J'ai cherché un peu dans notre bibliothèque à la faculté. Bon, j'ai lu parce que je l'avais juste regardé, pas vraiment lu le petit que sais-je du mouvement œcuménique. Mais il s'arrête en 60, en 59. Donc finalement, je n'ai pas pu faire un travail proprement scientifique d'enquête sur les 20 dernières années. Et pourtant, c'est de ces 20 dernières années surtout que je voudrais que nous parlions. Alors j'en suis réduit à parler en fonction de souvenirs de lecture et d'expériences personnelles. J'en ai eu, disons, un nombre limité, mais quand même quelques-unes, en particulier en ce qui concerne le plan national français. Mais comme j'ai fait partie aussi du comité international évangélique de Lausanne, qui a été considéré au moment de sa création comme un anti-conseil œcuménique par certains, c'est pas ça quand même, mais j'ai eu aussi quelques informations par moment. Je parle donc de façon assez impressionniste, en fonction d'une expérience subjective. Cela enlève de l'autorité à mes dires, mais je ne veux pas faire mieux. Bon, situation en gros au milieu du XXe siècle. Je fais un rappel historique, si rapide que possible. Vous savez que c'est au XIXe siècle que s'ébauche le mouvement de rapprochement interecclésiastique. Il y avait eu des efforts dans les siècles antérieurs, mais qui avaient tous avorté. Mais au XIXe siècle commence quelque chose d'un peu nouveau. Du côté des évangéliques, c'est l'une des deux racines. En 1846, l'Alliance évangélique est fondée. Et on voit bien d'où ça vient. L'expérience des réveils de la piété évangélique a relativisé l'importance de la confession protestante particulière, car c'est juste entre protestants à ce moment-là. Jusqu'au XVIIe siècle, l'Église, l'institution de l'Église à laquelle on devait une loyauté absolue, c'était vraiment quelque chose de majeur qui s'imposait. Et alors, entre réformés et luthériens, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on se canardait hein? C'était vraiment une polémique très très dure par moment. Quant au pauvre Baptiste, vous savez, on ne peut pas en parler. Les réveils du XVIIIe et du XIXe siècle, plus encore, ont fait fraterniser des chrétiens évangéliques de ces diverses dénominations. On s'est rendu compte qu'il y avait des chrétiens nés de nouveau et puis des chrétiens de non, un peu dans toutes les diverses églises. Les vrais chrétiens, qui s'estimaient en tout cas tels, nés de nouveau, ont fraternisé, il y a eu des conventions pour les réunir qui se sont organisées, et cette relativisation de l'importance de l'étiquette ecclésiastique, de l'institution ecclésiastique, a conduit, je crois, à la naissance de cet écuménisme évangélique, d'abord révélé dans la fondation de l'Alliance évangélique. Et puis, deuxième racine, il y a eu un mouvement quelque peu comparable, mais de nature spirituelle toute différente, du côté du libéralisme. Dans les grandes églises, vous savez que le libéralisme théologique a gagné au cours du XIXe siècle avec critique biblique. À partir du moment où les professeurs d'Ancien Testament, Nouveau Testament commençaient à découper la Bible à contester ses enseignements et le faire de façon assez anarchique, les vraies frontières ne passaient plus entre réformés et luthériens, par exemple. Il y avait des réformés libéraux beaucoup plus proches des luthériens libéraux que de leurs collègues orthodoxes, et évangéliques et semblablement. Et cette deuxième racine, je pense, est importante aussi pour l'évolution vers la fondation d'un mouvement écuménique. Alors on date en général de 1910, une grande conférence de tonalité évangélique, mais pas très rigoureuse quand même. Grande conférence intermissionnaire à Édimbourg, la fondation du mouvement écuménique. Des personnalités proches des évangéliques ont eu une grande part. Mais il y avait déjà eu pas mal d'infiltrations de points de vue plus modernes, disons, modernistes, dans ce rassemblement lui-même. Et puis c'est entre les deux guerres que le mouvement a pris son essor. À la suite d'Édimbourg, avec trois grands affluents, pourrait-on dire, qui ont fini en 1948 et en 1961 par confluer, mais ne plus constituer qu'un seul fleuve. Vous avez trois grands courants. Vous avez le courant proprement missionnaire, le Conseil international missionnaire, après Édimbourg, qui a subsisté distinctement jusqu'en 1961. Puis vous avez les deux courants qui ont fusionné plus tôt encore pour constituer le Conseil écuménique, un mouvement dont l'archevêque luthérien d'Uppsala, Söderblom, S-O avec tréma D-E-R-B-L-O-M, était le leader, le courant christianisme pratique. En fait, c'était surtout des libéraux. La note décisive était la note libérale. La grande conférence de Stockholm a été vraiment le coup d'envoi de l'écuménisme, avec un enthousiasme extraordinaire de tous ceux qui ont participé. Mais très consciemment, j'ai lu encore hier soir des pages du pasteur Wilfred Monod, pasteur libéral français qui avait assisté, très consciemment, ils ont écarté les questions de doctrine, disant la doctrine divise, l'action, la pratique unit, alors laissons de côté ces discussions théologiques qui sont nécessairement stériles pour agir ensemble. Et anticipons en quelque sorte sur l'unité qu'il nous faut construire. Alors cette racine libérale a été peut-être le moteur, ce qui a entraîné le plus vivement le mouvement entre les deux guerres. Mais il y a eu quand même un autre courant aussi, le courant appelé en français « Foi et Constitution ». C'était un évêque anglican américain, Brent, B-R-E-N-T, qui était le leader, et qui était essentiellement anglican. Ses cadres, disons. Un courant beaucoup plus préoccupé de doctrine, ne voulant pas mettre la doctrine sous le tapis, balayer la doctrine sous le tapis, et aussi la constitution ecclésiastique, les ministères, les sacrements, la validité de tout l'appareil, de tout le cadre liturgique. Ces deux mouvements ont tenu des conférences, et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la décision était déjà prise de fusionner. Et la fusion a eu lieu après la guerre a retardé un peu les choses, en 1948 à Amsterdam, plus de 100 églises qui se sont liées, et avec un Hollandais, un homme de tendance assez positive, pas un grand libéral, plutôt un Barthien. Il a d'ailleurs été étudiant de mon grand-père à l'université de Leyde. Je le sais pas comme ça par la bande. Visserthoofd, un homme bien hollandais, qui a été le premier secrétaire général. Un homme de grandes valeurs, spirituelles et théologiques. Pas un évangélique, quand même. Mais un Barthien, un homme quand même plutôt conservateur sur les points principaux de la foi du credo. Le mouvement ensuite s'est consolidé, s'est renforcé. Les églises nouvelles se sont jointes. En 61, à la Nouvelle-Delhi, lors de la Grande Assemblée, le Conseil international missionnaire a aussi fait fusion. Et la base qui avait été adoptée a été encore élargie. Et la définition qui a été adoptée à ce moment-là et qui est toujours la définition du Conseil œcuménique des Églises, c'est que le Conseil œcuménique est une association, en anglais fellowship d'Église, qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, selon les Écritures, c'est ça qui a été rajouté à partir de selon les Écritures en 61, selon les Écritures, et cherche par conséquent à remplir leur vocation commune à la gloire du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Très belle base, qui mentionne la divinité de Jésus-Christ, qui mentionne la Trinité, qui mentionne les Écritures. Seulement, il faut savoir tout de suite que c'est une base. Ce n'est pas une confession de foi normative. Et il y a une église, par exemple, qui a posé la question, très franchement, nous sommes unitariens de tradition. C'est-à-dire que nous refusons la Trinité. Est-ce que nous pouvons être membres? Eh bien, on ne leur a pas dit, non, vous ne pouvez pas, puisque la base mentionne la Trinité. On leur a dit, à vous de décider. Si vous décidez d'être membre, vous pouvez. C'est une base, référence, mais ce n'est pas une constitution à partir de laquelle une discipline d'exclusion pourrait être appliquée. Pas du tout. C'est contraire à l'idée du Conseil œcuménique. Les évangéliques sont restés en majorité dans le monde à l'époque, hors du mouvement, sauf les anglicans évangéliques, dont la plupart sont restés dedans, et ça a d'ailleurs été une cause de division à l'intérieur de l'Alliance évangélique mondiale, qui s'est divisée en fait, il y en a eu deux, et les luthériens allemands aussi, donc dans ces grandes églises très institutionnelles, là, l'aile évangélique a cru pouvoir continuer de participer au travail du mouvement œcuménique et d'y rendre témoignage. Certains évangéliques américains, à partir des années 50, on date d'une intervention du pasteur Ockenge, cette nouvelle stratégie, en 54, certains évangéliques américains ont commencé à prôner une stratégie de présence, d'infiltration. Mais les évangéliques, jusque-là, avaient été restés hors de ce mouvement. Ils pansaient leurs plaies, car entre les deux guerres, il y avait eu des luttes extrêmement dures entre les évangéliques et les autres. Et puis, on les comptait aussi comme quantité tout à fait négligeable. Le Conseil œcuménique n'essayait pas du tout de les attirer à l'époque. C'était une époque d'enthousiasme extraordinaire. Et pour la première fois dans l'histoire, ces églises qui s'étaient battues, persécutées, etc., se réunissaient. La théologie en 1948 qui dominait, c'était celle de Karl Barth. Il avait été lui-même orateur de la conférence d'Amsterdam. Et les évangéliques paraissaient des retardataires sans importance, dont on ne se préoccupait pas beaucoup. Les Français sont restés réticents, les évangéliques français. Monsieur Pache a écrit un ouvrage de très vigoureuse critique, et je pense qu'on peut dire que les raisons des évangéliques pour rester en dehors du mouvement œcuménique représenté par le Conseil œcuménique peuvent se ramener à trois principales. La présence du modernisme dans ce mouvement œcuménique, avec en particulier des leaders du mouvement, surtout venus du courant christianisme pratique, qui niaient des points fondamentaux de la foi, en particulier la divinité de Jésus-Christ, malgré la base, des leaders, des présidents du conseil, par exemple l'évêque Oxnam. Alors c'est ce modernisme qui faisait dire, pas question de nous mêler à ce mouvement, même si on reconnaissait la présence de certains évangéliques assez marginalisés dedans. Deuxième raison principale, la crainte d'une évolution vers la super-église, pouvant bien être la Babylone de l'Apocalypse, pour certains évangéliques. M. Pache ne le dit pas, et dans son commentaire, disons dans son livre sur le retour de Jésus-Christ, lorsqu'il traite de Babylone dans l'Apocalypse, il a une conception assez large de ce qu'elle peut représenter, toutes les formes de faux christianisme. Donc il n'adopte pas l'idée que le Conseil œcuménique, c'est le début de Babylone. Mais malgré tout, beaucoup d'évangéliques étaient réticents à cause de cette idée-là, et de toute façon, crainte de la super-église. Le Conseil œcuménique va créer un organisme mondial qui coiffera tout, qui dirigera tout. Fatalement, il se joindra au catholicisme et il ne restera plus que le martyr pour les évangéliques. Alors, ça c'est la troisième grande raison. Le mouvement œcuménique, le rapprochement inter-église, était conçu comme une menace pour les évangéliques, au moins dans leur témoignage. Le prosélytisme est très mal vu au sein du conseil œcuménique, puisqu'il s'agit de se rapprocher avec les autres églises. La plupart de ces églises sont des églises territoriales, qui considèrent que les populations nominalement chrétiennes, baptisées en masse dans la petite enfance, leur appartiennent, et qu'on chasse sur leur terre, si on fait de l'évangélisation. Alors, les évangéliques s'opposaient à l'époque au mouvement œcuménique avec la pensée que si on entrait dans le système, l'évangélisation fatalement en serait freinée, sinon complètement bloquée. Et dans certains pays, par exemple la Grèce à l'époque, il y avait des persécutions d'évangéliques par les autorités membres du conseil œcuménique. Les autorités de l'église orthodoxe grecque étaient membres du conseil œcuménique et en même temps persécutaient des baptistes, etc. Alors qu'il y avait des baptistes, mais évidemment pas les mêmes, dans le conseil œcuménique, les baptistes anglo-saxons. Cependant, on peut noter que dans nos pays, dans les pays de langue française, il y a eu peu d'audience pour un courant ultra-séparatiste, anti-œcuménique de manière plus agressive et systématique. Un tel courant s'est créé dans le monde évangélique, aux États-Unis, avec un pasteur appelé McIntyre, qui a créé l'ICCC, le Conseil international des églises chrétiennes, International Council of Christian Churches. Il s'est créé, lui, très visiblement comme un anti-conseil œcuménique. Il s'est créé à Amsterdam, quelques jours avant l'autre, pour prévenir le coup, et avec une politique d'agression verbale très très forte, et aussi de dénonciation du communisme. La politique était assez mélangée. Et on peut dire que du côté français, il y a eu peu d'écho. Le principal de ceux qui ont accepté de s'associer à l'ICCC était le pasteur William Henry Guiton, qui était à Courbevoie, dans les églises méthodistes françaises, un grand bonhomme, qui est devenu de plus en plus dur et étroit, si vous voulez, en vieillissant. Je pense qu'on peut citer aussi, évidemment, on connaît bien, le mouvement de l'Action biblique et M. H.E.L. Alexander de l'époque. Lui aussi, une très forte personnalité. Mais en dehors de ces deux grandes personnalités, je pense qu'on peut dire que le monde évangélique français n'a pas été tellement dans cette direction. Quant aux rapports locaux ou nationaux, la Fédération protestante de France n'est pas le conseil œcuménique. Elle s'était créée à l'origine comme un organisme très lâche, sans intention spirituelle déclarée, pour représenter le protestantisme auprès des autorités et pour gérer des intérêts communs, mais sans implication proprement théologique.
C'était évangélique,
alors. Je ne pense pas uniquement évangélique, mais il y avait des évangéliques au départ. Ils étaient peut-être majoritaires, en effet. Évidemment, les églises réformées évangéliques de l'époque n'étaient pas aussi évangéliques que leur nom le suggère. Alors, ça crée une petite hésitation. Mais les baptistes, à l'époque où ils étaient unis en France, en 1919, ils sont entrés. Le tabernacle, lui, était à l'extérieur, il y a 20 ou 30 ans, comme aussi l'association baptiste, par exemple. Cela était un fruit de l'histoire de la division entre ce qui est devenu la Fédération baptiste dans les années 20 et le tabernacle, puis ensuite l'association. Mais ça correspondait aussi, globalement, aux attitudes du tabernacle, beaucoup plus sourcilleux devant l'idée d'une association au moins permanente avec des non-évangéliques. Le tabernacle a adopté dans les années 20 et 30, et c'était toujours valable dans les années 40, une attitude qui est reflétée dans nos règlements intérieurs, je crois, enfin, ou dans nos statuts, pas d'association avec des gens qui ne sont pas prêts à souscrire à toute l'autorité scripturaire. Il y a même un article, l'habitude, on ne trouve pas ça dans les confessions de foi, n'est-ce pas, qui dit, dans nos règlements intérieurs ou statuts, je ne sais plus, que ne pourrions pas nous associer à des gens qui nieraient l'historicité du livre de Jonas, par exemple. C'est une petite illustration, parce que le modernisme parfois se déguise, et alors, bon, voilà. Le tabernacle était à l'extérieur, mais ne se joignait pas au courant ICCC. Pas d'isolationnisme, et je pense qu'on peut dire que la politique que l'Église a choisie, alors que mon père était le pasteur en particulier, a été une politique de dialogue, d'ouverture un peu plus grande que dans la période précédente, alors au temps de ma grand-mère, disons. Ça s'est reflété en particulier par la résurrection de l'Alliance évangélique française, sur des bases fermement évangéliques, mais cependant avec pour président un homme qui n'était pas, disons dans sa théologie, absolument nickel, hein, je crois qu'il faut le reconnaître. Il venait de loin. Alors il avait fait beaucoup de chemin vers des positions évangéliques, il fallait saluer ce courage qu'il avait eu, c'était le pasteur Jean-Paul Benoît, un homme remarquable. Mon père et M. Jules-Marcel Nicole ont cautionné en quelque sorte le pasteur Jean-Paul Benoît, ont permis que l'Alliance évangélique, avec ce trio à la tête à l'époque, dans l'après-guerre, se reconstitue. Et cette alliance évangélique, fermement évangélique, au moins à Paris, avec ces trois hommes, parce que dans certaines villes de province, c'était parfois plus indistinct. Cette alliance évangélique a, je crois, eu de l'importance et a permis l'organisation des campagnes Billy Graham, par exemple. Campagne Billy Graham des années 50. Voilà, en gros, la situation il y a 20-30 ans. Évolution des dernières décennies. Le Conseil œcuménique, donc je reviens au plan mondial, a consolidé son pouvoir, ses structures, le nombre des églises membres a presque triplé, elle a été dotée par une donation d'un très bel instrument de travail pour son quartier général, le château de Bosset, dans lequel j'ai été une fois, sur les rives du Léman. Mais alors c'est au prix d'un alourdissement, d'une bureaucratisation que beaucoup dénoncent. Je crois qu'on peut dire que dans les 20 dernières années, par exemple, l'enthousiasme œcuménique est retombé. Et que beaucoup de jeunes s'en sont détournés. Pour la première génération, c'était vraiment une aventure spirituelle. C'était quelque chose de très beau et d'exaltant. C'est devenu quelque chose de plus routinier. Il faut être œcuménique, oui, ça c'est... je pense que dans les églises membres, tout le monde pense ça. Il faut. Mais... il n'y a plus tant d'espoir et ça ne vibre plus tellement. Pour une part, c'est à cause non seulement de cette bureaucratisation, peut-être inévitable, mais c'est à cause de l'entrée des églises orthodoxes d'au-delà du rideau de fer, en masse, à partir de 61 aussi, que cela s'est produit. Parce que ces églises orthodoxes, pour deux raisons au moins, freinent toute initiative très importante. Elles sont généralement, en théologie, en tout cas sur la Trinité par exemple, conservatrices. De ce côté, nous serions assez proches. Mais d'autre part, en matière politique, surtout, il ne faut pas gêner les visées du Kremlin. Je crois que c'est une évidence que seuls des hommes qui sont au moins agréés, pour ne rien dire de plus, par les autorités soviétiques ont le droit d'assister aux conférences mondiales du Conseil œcuménique et généralement sont même à la tête des organisations officielles de ces églises au-delà du rideau de fer. Alors à bien des égards, c'est un jugement dur, mais à bien des égards on peut trouver une ressemblance entre le Conseil œcuménique tel qu'il est devenu et puis l'ONU. On pourrait se dire c'est pas une sorte d'ONU de la chrétienté. Bien souvent on y pense. L'accusation n'est pas si étrange que ça. En fait, j'ai trouvé, dans ces lectures, sous la plume du père Congar, dans son livre de 1937, déjà ce commentaire sur les ébauches du mouvement œcuménique du côté christianisme pratique, voyez, en disant, on dirait, une SDN, Société des Nations, avec un vernis chrétien assez superficiel. Je pense qu'on peut difficilement ne pas penser à l'ONU quand on lit les rapports de certaines des grandes conférences œcuméniques. En général, l'influence barthienne en théologie a baissé. Un homme comme Philippe Potter, beaucoup plus préoccupé d'autres sujets, a succédé à Visserthoft, par exemple, et certainement avec une théologie beaucoup moins ferme. Et le grand phénomène dans les 20 dernières années, ça a été la radicalisation politique. Elle n'avait pas été si évidente dans les décennies précédentes. Radicalisation politique flirte avec des thèmes au moins, et peut-être la langue de bois marxiste, assez évidemment. Le point culminant a peut-être été la grande assemblée d'Uppsale. Il y a une assemblée en gros tous les 6 ans, mais parfois il y a une année de plus, d'Uppsale en 1968, mais aussi Nairobi 1975, avec d'ailleurs une réaction, là, pour la première fois une réaction, que la bureaucratie a essayé d'étouffer, mais une réaction de certains qui commençaient un peu à en avoir assez, avec une dénonciation toujours uniquement des maux de l'impérialisme, du capitalisme, des États-Unis, toujours accusés, alors que c'est eux, comme à l'ONU, comme à l'UNESCO, qui financent pour le principal, vous voyez, sans jamais de véritables paroles claires pour dénoncer les abus qui se commettent de l'autre côté. Les instances dirigeantes, d'ailleurs, disent qu'ils ne font pas rien dans ce domaine, qu'ils ne peuvent pas dénoncer publiquement les atteintes aux droits de l'homme qui se passent en Union soviétique, par exemple, mais qu'ils agissent dans la coulisse et efficacement, qu'ils obtiennent des résultats. Ils se défendent comme ça. Mais en tout cas, dans le discours public et pour les médias, ça paraît un déséquilibre énorme. Et il y a eu des réactions à Nairobi, mais assez vite étouffées. Donc ça, c'est un trait nouveau des 20 dernières années, cette radicalisation politique, et le fait symbolique qui a fait beaucoup de bruit, ça a été les subsides donnés aux mouvements terroristes de divers pays d'Afrique. Le Conseil œcuménique, avec son idée que finalement l'action chrétienne c'est la libération des peuples opprimés, et opprimés par le colonialisme et toute l'influence occidentale, le capitalisme, a détourné certains de ses fonds pour le soutien de mouvements, de guérillas. Alors là, ça a quand même été fort de café pour un certain nombre de gens aux États-Unis et en Allemagne aussi. L'Allemagne, avec la force du Marx, est aussi une des églises qui soutiennent financièrement de façon majeure le travail du Conseil œcuménique.
Je signale que dans l'avant-dernier numéro de Catacombe,
je crois, il y a un article là-dessus de... Son nom m'échappe maintenant, celui qui écrit souvent... Bref, et il y a un article qui parle de ces subsides qui sont apportés aux mouvements de révolution un peu partout, en Amérique latine aussi. Donc, des faits récents. Catacombe, c'est gros sous, et je dirais que Catacombe est d'orientation de cœur œcuménique, mais dénonce le mouvement œcuménique à cause de ce soutien aux guérilleros qui sont tous encouragés par qui sont généralement de gauche. Voilà. Alors disons que si le mouvement œcuménique n'était pas ne soutenait pas ces mouvements révolutionnaires de gauche, je crois que Catacombe serait sans réserve dans le mouvement œcuménique. C'est mon sentiment, et je dirais pratiquement c'est leur position, les rapports qu'ils entretiennent avec sans distinction avec toutes les confessions.
Alors depuis quelques années, mais là encore j'espère avoir une vision équilibrée des choses, mais il y a eu un virage par rapport à l'évolution qui est observable de 65 à 75, par exemple. Je pense qu'on peut dire qu'on assiste à un virage. Il y a eu des réactions. Le masochisme des chrétiens œcuméniques d'Amérique a quand même fini par s'user un peu. Il y a une prise de conscience de la faillite du modèle soviétique qui s'est répandu assez largement dans le monde. Il y a eu aussi des difficultés internes. Et puis d'autre part, la croissance évangélique a fini par frapper les responsables du mouvement œcuménique. Le congrès de Lausanne en 1974 les a impressionnés, ils avaient leurs observateurs, etc. Et il n'y a pas de doute que les églises, en gros les églises affiliées au mouvement œcuménique, ont vu leur nombre baisser régulièrement, leurs ressources financières aussi, toutes ces 20 ou 30 dernières années, c'était un déclin vraiment très régulier, alors qu'il y a eu, à l'échelon mondial, une véritable explosion des églises évangéliques. Une conquête, quant au nombre au moins, très très remarquable. Alors ça finit par les secouer un peu, les inquiéter, et du coup, on a noté une nouvelle attitude. D'abord, un certain recentrage par rapport à cette radicalisation politique, et d'autre part, une politique d'écoute nouvelle des évangéliques. À certains d'entre eux, on a fait vraiment des avances, on leur donne une certaine tribune. J'ai été frappé, par exemple, j'ai vu un numéro de la revue écuménique, Ecumenical Review, et il y avait plusieurs évangéliques, alors des évangéliques parmi les plus ouverts au dialogue, Ronald Sider ou John Yoder, mais qui avaient écrit, qui avaient des articles dans cette revue écuménique. Il y a quelque chose là, incontestablement nouveau, qui s'est révélé dans la dernière assemblée, celle de Vancouver, en 1983, où on a entendu à nouveau un langage plus biblique et pieux, et ça a conduit un certain nombre des observateurs évangéliques présents à se réjouir et à dire, voilà, une véritable conversion du mouvement écuménique. Alors d'autres présents ont jugé que c'était de pure surface, et qu'en réalité, il n'y avait pas d'amélioration fondamentale, de guérison fondamentale du mouvement. Et en particulier, mon ami le professeur Bayerhaus de Tübingen, qui est un ancien écuménique, il ne vient pas d'un arrière-plan strictement évangélique, mais qui est devenu un des critiques les plus durs du mouvement écuménique, alors qu'il a la chair d'écuménisme à l'université de Tübingen. On lui a donné avant qu'il opère, lui, ce changement. Le professeur Bayerhaus a été l'un des signataires d'un rapport d'une minorité évangélique des observateurs de Vancouver disant « Ne nous laissons pas berner par un nouveau langage. » Ce qui me paraît personnellement le cas. J'ai lu le rapport des participants français de la Fédération protestante de France qui ont fait rapport à la Fédération protestante de Vancouver. Donc, ce qui me paraît personnellement le cas, c'est qu'il y a effectivement une volonté de recentrage chez certains des leaders qui se rendent compte qu'on a été trop loin, que c'est trop dangereux, etc. Qui sont sincères aussi. Ceux que j'ai fréquentés de ce monde des leaders sont des gens sincères, mais qui me paraissent avoir une théologie d'un flou. Ils sont souvent sentimentaux, plein de bonnes intentions. Il y a une volonté de recentrage, donc, je suis certain. Mais il n'est pas question pour eux d'exclure l'aile radicale, révolutionnaire, représentée par exemple par Dorothée Zöllé, théologienne allemande, lors de Vancouver, qui a reçu une grande place. Et il reste évident pour pratiquement tous que ce sur quoi on va déboucher concrètement, eh bien, c'est une action en faveur des mouvements de libération, de critique du capitalisme. C'est quand même en débouché concret ce qui apparaît le plus clairement, me semble-t-il. Pour le reste, alors c'est la culture d'une piété de style orthodoxe oriental, très mystique, très centrée sur l'Eucharistie. Pour nous, très, très vague. C'est ça ce qui rétablit une sorte de recentrage par rapport à l'accent éthico-politique, mais nous sommes, je pense, encore assez loin de compte en ce qui nous concerne. En France, un certain parallélisme s'observe aussi, bien que les Barthiens soient restés beaucoup plus longtemps au pouvoir que dans le Conseil écuménique lui-même. Et je suis frappé, j'ai encore à parler à un rassemblement d'aumôniers militaires de toute tendance récemment, fin septembre. Je suis frappé par la permanence du langage et des schémas de la théologie barthienne ou plus ou moins barthienne des années 50, 40-50, parmi ces gens-là. Je ne m'en doutais pas avant de les rencontrer, parce que ce n'est plus la théologie qui soit à la mode. C'est plus la théologie qui a la cote. Et en fait, les Barthiens sont restés au pouvoir parce qu'ils se sont soumis. Parce que, au lieu d'affirmer leur théologie barthienne face aux nouveaux courants très libéraux, ils ont dit qu'il faut se laisser interpeller, faut écouter, etc. Les jeunes. Alors, le discours dominant a été un discours disons, très, très radical au sens qui n'est pas un sens très, très véridique, mais au sens où on emploie le terme, donc révolutionnaire, marxisant parfois, etc. Mais en fait, les Barthiens sont restés avec leurs convictions martiennes sur l'écriture, sur les faits de l'histoire du salut, un peu molle, mais quand même toujours là, sont restés en place. Ils ont laissé les autres dominer dans le discours, mais ils sont restés. Et ça, c'est une différence par rapport au Conseil œcuménique. Et là aussi, un virage qui s'amorce en 75. À mon avis, c'est visible. J'ai assisté, pour ma part, aux deux assemblées du protestantisme de 75 et de 83, à Paris en 75, à La Rochelle en 83. Et dans les deux cas, moi qui ne suis pas dans la Fédération protestante, j'ai été invité à prendre part à la préparation d'une journée biblique en 75, ce qui m'a permis d'introduire deux évangéliques dans la journée où quatre présentateurs devaient présenter des études bibliques. Monsieur Émile Nicole et Monsieur Jean-Paul Remp, à l'époque. Et en 83, j'avais une des trois études bibliques du matin, bref, à apporter. Donc j'ai assisté, j'ai vu comment les choses se passaient, etc. Il n'y a pas de doute qu'un virage s'est amorcé en 75 et qu'en 83, c'était vraiment très sensible. À mon avis, on aurait pu appeler autocritique, bien que la chose ne soit pas apparue en clair, le discours du président. Le président qui est un homme très sincère, avec certainement une piété personnelle, le pasteur Jacques Maury, a eu un discours qui allait dans notre sens à bien des égards. Mais si on regarde ce qu'il disait il y a 10 ans, je pense qu'on pourrait l'appeler une autocritique. Des thèmes vraiment très nouveaux par rapport à ce qu'il disait ou laissait dire sous son autorité au début des années 70. Mais comme dans le Conseil œcuménique, ce recentrage avec nouvelle écoute des évangéliques, dont l'invitation dont j'ai été le bénéficiaire a été un exemple, ne s'accompagne pas d'une restauration de l'orthodoxie du tout comme norme dans le mouvement. Pas question pour les responsables d'exclure l'aile révolutionnaire, très engagée politiquement, qui continue d'être très, très sonore dans le mouvement de la Fédération protestante de France. J'en ai eu de bons exemples. Et un élément qui me paraît quand même très, très important. La nature même de la Fédération protestante de France a été modifiée. Je ne sais plus maintenant la date des nouveaux statuts qui ont été adoptés. Mais alors qu'au départ, c'était une simple fédération sans véritable nature théologique, la Fédération protestante est devenue autre chose. Je crois qu'il faut le reconnaître. Elle se définit elle-même. J'ai ici ses statuts. Article 1er, but et organisation de la Fédération protestante de France, afin d'attester l'union des églises évangéliques, au sens de protestants seulement, hein, pas à notre sens, afin d'attester l'union des églises évangéliques en France, manifestée par la pratique de l'intercommunion, l'église à confession de pauvre, etc., etc., toutes les églises constituent une fédération, afin d'attester l'union des églises protestantes, manifestée par la pratique de l'intercommunion. Ça va beaucoup plus loin que l'idée d'un simple organisme de représentation auprès des pouvoirs publics. C'est la voix du protestantisme que veut faire entendre la Fédération protestante lorsqu'elle émet des textes, par exemple. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Elle est prise comme telle aussi par les médias. Et l'engagement dans la Fédération protestante me semble avoir un certain poids. Alors là, les évangéliques ne sont pas tous d'accord. Les évangéliques français, à l'heure actuelle, je crois qu'on peut l'observer. Les églises libres, l'union des églises libres, qui faisait partie de la fédération dans son ancienne formule, a quitté au début des années 60, je crois. Avant même, c'était fin des années 50 alors. A quitté cette fédération protestante. La fédération des églises baptistes y demeure, qui est évangélique, et également l'union des églises réformées évangéliques indépendantes du Midi. Ce sont deux organes qui étaient là au départ, et qui sont restés, même avec ce changement de statut. J'ai l'impression, alors là, peut-être pas quand même que ça circule trop, comme parce que je parle de façon quasiment confidentielle, hein. Je pense qu'on peut caractériser très grosso modo, très schématiquement bien sûr, les politiques suivies par ces deux unions d'églises évangéliques importantes au sein de la fédération de façon différente. En gros, il me semble que la fédération baptiste participe en laissant dire et faire pour obtenir certains avantages sérieux, jugeant que c'est une sage gestion des ressources. D'après ce que je crois savoir, elle n'essaie pas vraiment de se battre. Quand les orientations ne sont pas celles des évangéliques, les minoritaires, tant pis. Je pense que les avantages l'emportent sur les inconvénients de rester là. L'Union des Églises réformées évangéliques du Midi, au contraire, a tenté davantage de se battre, surtout avec Mlle de Védrine comme représentante au Conseil pendant bien des années. Mais sans beaucoup plus d'effet, mais disons au moins baroud d'honneur. Voilà, je crois comment, très schématiquement, on pourrait caractériser les choses. Mais je me trompe peut-être, je vous dis d'emblée que je n'ai pas beaucoup d'autorité pour résumer les choses de cette façon. Fait nouveau, les évangéliques qui n'étaient pas membres de la fédération protestante se sont joints à elle ces dernières années. C'est une nouveauté. La brèche a peut-être été faite, alors il y a déjà quand même un certain nombre d'années, par les tziganes, les évangéliques tziganes, et ils ont été suivis par plusieurs autres, surtout des petits groupes de tendance pentecôtiste. Pas les assemblées de Dieu, la grande union des pentecôtistes, mais les autres groupes. À La Rochelle, par exemple, j'ai vu M. Weber, de la famille Weber du Nifleury, des Fosses, qui est l'un des pasteurs d'un groupe de quelques églises pentecôtistes qui s'est joint à la fédération protestante à cette occasion. À coup sûr, l'une des motivations, c'est le désir d'échapper à l'accusation d'être des sectes, et le désir de s'assurer par l'appartenance à la fédération protestante contre toute mesure gouvernementale qui frapperait les sectes, les églises marginales. Il y a aussi, je pense, le fait que les églises pentecôtistes, à cause de leurs accents traditionnels, sont peut-être moins soucieuses de doctrine et de points juridiques que les gens de la tradition baptiste le seraient peut-être. Alors, ça c'est un fait nouveau. À ces églises se sont jointes également, mais avec un statut quand même à part. Ce n'est pas purement et simplement membre de la fédération. C'est une association, des membres associés. Deux œuvres évangéliques, non pentecôtistes, en tout cas pour l'essentiel, qui nous touchent de près. Alors je crois que c'est un fait à enregistrer. Radio Évangile et la croisade de maison en maison. C'est un fait de quelque importance. Je crois que les responsables sont très conscients de ce qu'ils font, ont bien réfléchi, ont mesuré avantages et inconvénients, mais je signale donc ce fait comme un fait nouveau en France. Le mouvement charismatique a joué un rôle, me semble-t-il, favorisant cette ouverture, mais je pense que son rôle principal concerne les relations avec le catholicisme, donc je n'en parle pas davantage maintenant. Vous pouvez encore prendre 10 minutes. Vous voyez, maintenant ça fait une heure que nous sommes en séance, mais si je vous donne en quelque sorte mes conclusions, ça prendra encore environ une dizaine de minutes. Alors ma dernière partie de conclusion, je l'ai intitulée « Devons-nous modifier nos attitudes anciennes ?» Je pense qu'on doit noter qu'il y a 20-30 ans, certaines craintes étaient mal fondées, ou en tout cas qu'elles seraient aujourd'hui, je crois, peu justifiées. La crainte de la super-église, par exemple, me semble maintenant quelque chose d'assez artificiel. Avoir la lourdeur de l'appareil du Conseil œcuménique, avoir ses difficultés internes, avoir la lenteur des évolutions, avoir aussi Là, j'anticipe un peu l'attitude nouvelle du pape. Je ne pense pas que le danger de la super-église soit très présent, pas plus que le danger d'un gouvernement mondial ne suit directement l'existence de l'ONU. C'est bien plus quelque chose qui ressemble à l'ONU qu'à un gouvernement mondial que nous avons avec le Conseil œcuménique des Églises. Je pense qu'il faut aussi renoncer, du côté évangélique, à certains arguments peu exacts. Il ne faut pas accuser tous les œcuméniques de laxisme doctrinal, d'indifférence à la doctrine. Il y en a un bon nombre qui disent très sincèrement, authentiquement, que ce n'est pas en passant par-dessus les droits de la vérité, ce n'est pas en acceptant le moindre compromis quant à leur foi qu'ils veulent réaliser l'unité. Je crois qu'on ne doit pas mettre en doute leur sincérité. Il y a au moins un courant à l'intérieur du Conseil œcuménique qui est très soucieux de droiture et de fidélité à ce qu'ils croient, la tradition de leur Église, sinon à l'autorité de l'Écriture, sur ce point. Il y a aussi une critique qui me semble tomber à côté, et là, peut-être une conception évangélique à redresser, c'est ce que j'ai essayé un peu de faire à Lausanne, d'ailleurs, en 1974. Il est faux de dire que les œcuméniques considèrent que l'unité soit affaire, purement et simplement, œuvre humaine. Les évangéliques ont souvent répliqué, elle est donnée par Dieu, elle existe. Beaucoup d'évangéliques sont prêts à dire, beaucoup d'œcuméniques sont prêts à dire aussi, notre unité est dans le Saint-Esprit, donnée par Dieu, etc. Mais il faut que nous lui donnions forme visible. C'est là notre vocation, d'après le Nouveau Testament même. Jean 17 dit afin que le monde voit, et on ne peut pas se contenter d'une unité de corps mystique du Christ sans expression. Et je crois qu'ils ont raison sur ce point, et que les évangéliques ont joué beaucoup trop facilement, comme d'une échappatoire, de l'idée de l'unité invisible. Ah, je déclare la couleur. La politisation récente, qui nous choque généralement, nous évangéliques, ne doit pas non plus être exagérée. Là aussi, il y a diversité interne, il y a un certain recentrage. Ce n'est pas tout le Conseil œcuménique qui est engagé, et cette question des subsides, par exemple, elle est scandaleuse à nos yeux, mais elle ne représente pas toute la politique. C'est pas tout l'œcuménisme qui, me semble-t-il, mérite d'être condamné pour cette pratique particulière. Il nous faut nous rappeler aussi le devoir de témoignage que nous avons. La politique de la chaise vide, c'est peut-être aussi une échappatoire, une facilité. Alors, on a les mains pures, on ne risque pas de faire de compromissions. Mais finalement, on n'a peut-être pas rendu le témoignage qui était nécessaire là où il était le plus difficile à donner. Il faut se rappeler cela aussi. Et il faut aussi savoir que nous avons, d'après 1 Pierre 3, à rendre compte de l'espérance et de la foi qui sont en nous. Moi, je me sentirais infidèle, même si je sais qu'il y a des risques d'image en particulier, si je refusais lorsque la Fédération protestante me demande de venir apporter un message, et sans me lier les mains, hein, j'ai dit vraiment ce que je voulais, à l'Assemblée du protestantisme. Je pense que là, je me déroberais par rapport à ce qu'un Pierre III nous dit de faire, bien que je n'ignore pas les risques d'image dont j'ai parlé, de malentendus que ça peut créer. Je pense aussi que nous devons nous rappeler nos travers d'évangélique, que nos églises ne sont pas toujours très appétissantes pour les gens qui les regardent du dehors et même du dedans aussi. Que nous avons bien à battre notre coulpe aussi, qu'il y a une certaine satisfaction de soi des évangéliques qui n'est pas du tout conforme, je crois, à la saine attitude du Nouveau Testament. Mais cela dit, j'avoue que reprenant mes notes de 1964, je ne me vois pas aboutir à d'autres conclusions. Le modernisme, il n'est pas moins dangereux aujourd'hui qu'en 1950. Et le recentrage dont j'ai parlé tout à l'heure, relativement récent, à mon avis, ne nous fait même pas revenir au niveau de Visser-Tooft. Si nos pères, dans la foi, ont jugé impossible de se joindre aux Barthiens de 1950, je vous assure que même les meilleurs, en dehors des quelques évangéliques, même les meilleurs du leadership du Conseil œcuménique aujourd'hui ne sont pas aussi solides dans leur théologie que les Barthiens même ne l'étaient. En tout cas, globalement, c'est ce que je dirais. Le nouveau secrétaire général, je ne connais pas très très bien. Il connaît les évangéliques, mais c'est Emilio Castro d'Amérique du Sud. Je pense qu'il n'est pas extrémiste, mais je ne pense pas qu'on puisse le considérer comme orthodoxe. Et quand le pluralisme doctrinal est admis sur ce qui constitue le fondement, quand il n'y a aucune référence incontestée à partir de laquelle on pourra régler les questions, alors il me semble que non, nous ne pouvons pas nous investir vraiment. Et là, il y a un point de théologie, alors, ça c'est le plan des principes, qu'il faudra peut-être discuter entre nous. Certains évangéliques, j'ai lu, je pourrais même lire une citation ou deux, si vous le vouliez, disent « la séparation n'est pas biblique, n'est pas biblique de se séparer ». Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont invités à rester dans l'Église, l'unité de l'Église prime, il y a des hérétiques, il y a des horribles gens, on n'a pas à se séparer. Alors, je crois que cela est faux. Je crois que le Nouveau Testament, au contraire, nous enjoint la séparation lorsque les déviations sont assez graves pour le légitimer. Alors là, il faut mesurer la gravité. Et même, je pense, qu'on peut tirer du Nouveau Testament, c'est beaucoup plus délicat. C'est ce que j'ai essayé de faire à Lausanne. Vous pourrez éventuellement utiliser mon texte de Lausanne 74. Je crois qu'on peut montrer que la séparation peut être nécessaire, une séparation relative. Même avec des frères qu'on reconnaît comme frères, lorsqu'ils font entorse à la norme doctrinale du Nouveau Testament sur des points importants. La notion d'église reste une pierre d'achoppement. Et curieusement, là, il se fait comme un renversement d'alliance, d'alliance, entre guillemets, parce que justement, il ne s'agit pas pour nous d'entrer dans une alliance. Mais là, nous serions plutôt d'accord avec les libéraux. Oui. Au sein du Conseil œcuménique, vous avez des libéraux, activistes politiques assez souvent, protestants, d'églises protestantes, méthodistes, baptistes, par exemple, ou réformés. Et puis vous avez alors les grandes églises institutionnelles, surtout luthériens et les orthodoxes. Alors, sur le credo, la Trinité, la résurrection, nous sommes, nous, avec les orthodoxes, avec les luthériens. Mais ces gens-là sont en même temps alors ultra-sacramentalistes. Tout est dans l'Eucharistie, tout le baptême, etc. Le baptême qui régénère, et tout. Et l'épiscopat, et tout. Et c'est une masse. Alors là, les libéraux réagissent contre, au nom de la liberté de l'esprit, et nous aussi. De ce côté, il y aurait une affinité. Mais ça veut dire que pour nous, même ceux qui, au plan de la doctrine, sur le credo, seraient les hommes avec qui nous pourrions dialoguer, crée un climat très très désagréable sur la notion d'église et sur tout ce qui l'accompagne. Je ne sais pas si nous pourrons étudier, mais je ne l'ai pas encore étudié, le BEM, comme on l'appelle, un document de foi et constitution qui est maintenant un département donc du Conseil œcuménique et que toutes les églises étudient, baptême, eucharistie, ministère. Mais même en France, pas mal de protestants œcuméniques ont réagi très fort contre les tendances catholicisantes lourdement sacramentaliste de ce document et sur son caractère ambigu de toute façon. La notion de mission n'est pas non plus clarifiée. Ça, c'est le grand point que Bayerhaus met en lumière sans arrêt et sur lequel il revient. On a parlé de convergence entre Lausanne et puis le Conseil œcuménique parce que Lausanne a dit il n'y a pas que l'évangélisation, il y a aussi le devoir d'engagement social pour l'Église. Mais il ne faut pas se cacher la réalité. Un gouffre subsiste. Quand on lit le rapport de Vancouver que j'ai lu, donc des représentants français, on se rend compte que la mission, pratiquement, ça va toujours être de s'engager du côté des pauvres contre l'apartheid, contre le colonialisme. C'est constamment ça qui est la mission de l'Église, le témoignage qui est à rendre. Avec un fond d'universalisme, si on s'interroge encore sur un salut éternel, alors là, on pense que tous les hommes seront sauvés de toute façon. Ça, c'est clairement le ton dominant. Alors, je ne dis pas que tous dans le Conseil œcuménique pensent comme ça. En fait, John Stott, à Nairobi et à Uppsala, a parlé très clairement contre ça, mais pas vraiment écouté. Oui. C'est dans cette direction, et de nouveau, cela nous gêne, ce qui correspond à l'influence des idéologies du monde, à nos yeux, dans les travaux du Conseil œcuménique. Alors, à coup sûr, à cause de la croissance des évangéliques, nous risquons beaucoup moins qu'il y a 25 ans, d'être simplement engloutis par le nombre, d'être simplement récupérés. Si nous avons un dialogue, nous pouvons être entendus davantage. Ça peut nous donner une marge, du côté de la stratégie, une marge d'action supplémentaire. Et à l'heure actuelle, j'entendais la chose dite tout récemment, là encore entre nous, certains libéraux craignent une OPA des évangéliques sur telle ou telle œuvre protestante commune. Parce que les évangéliques ont un dynamisme, ont maintenant des ressources qu'ils n'avaient pas. Alors cela, au plan des décisions prudentielles, peut nous permettre peut-être de faire plus qu'il ne s'est fait autrefois. Mais quant à un engagement, un investissement fondamental, un engagement, moi je dois dire que je n'en vois pas la possibilité pour des chrétiens évangéliques comme nous voulons être.
Est-ce que justement, ce flou qui est entretenu n'est pas plus dangereux justement pour nous ? Enfin, je n'aime pas trop défendre l'étiquette, c'est pas le but de la question, mais lorsqu'on parle de la fédération par exemple française, de ce que vous avez parlé, protestante, il me semble que justement il y a un énorme flou qui est là. Alors évidemment il y a des groupements évangéliques qui rentrent là, mais est-ce que pour ceux qui sont dans les églises, justement la masse des personnes qui viennent régulièrement, est-ce que ça n'entretient pas pour eux un flou aussi, savoir où ils se situent, bon, même dans leur doctrine où ils se situent, bon, c'est ça.
Je m'interroge exactement comme vous. Je suis toujours là tiraillé lorsque des gens abandonnent une position qui était malsaine, mauvaise, carrée et évidente, et puis disent des choses qui sont alors beaucoup plus floues vers le centre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut se réjouir de ce qu'ils abandonnent des positions qui étaient très éloignées de l'écriture et se rapprochent un peu de l'écriture, parce que ça paraît positif ? Ou bien est-ce qu'il faut dire, mais avant c'était clair, c'était net, et maintenant des braves gens vont se laisser embobiner puisque c'est flou ? Vraiment, je trouve qu'on est tiraillé. Toujours devant une telle question.
Je dois dire que
sous ce rapport-là, il m'apparaît que le mouvement œcuménique est véritablement le lieu de la confusion et le lieu où l'anesthésie se fait. Et le propre, justement, de l'anesthésie, c'est qu'elle vous anesthésie. Elle vous rend incapable de percevoir les choses qui devraient être perçues. C'est-à-dire que les mécanismes d'alarme qui existent, la douleur, ne fonctionnent plus, n'est-ce pas ? Et l'opération qui va modifier le corps peut intervenir, là, généralement, c'est pour le bien de celui qui est opéré, mais lorsque je viens de lire un livre très intéressant sur les insectes, il y a une guêpe qui se nourrit d'espèces de grillons. Alors, la dispute est de savoir, après Fabre et tout ça, si l'instinct est infaillible et où elle pique, si elle pique dans les centres nerveux. Or, il apparaît qu'elle ne pique pas dans les centres nerveux. Elle pique à proximité des centres nerveux et elle anesthésie petit à petit les réactions des pattes du grillon, et après ça, elle pique de plus en plus près des centres nerveux, et finalement, elle dépose son œuf sur l'insecte, et c'est cette larve qui se nourrit de l'insecte vivant et anesthésie. Alors, je sais que l'image peut paraître caricaturale, mais enfin, il me semble que nous devrions réfléchir très sérieusement, en prenant en compte les courants, les idéologies dominantes, et tout ce qui nous chloroforme aujourd'hui, et je donnerai des exemples précis si c'est nécessaire. Nous devrions prendre ceci en compte dans notre réflexion. Présentement, du point de vue méthodologique, tu as laissé l'intrusion de l'Église catholique dans le mouvement œcuménique de côté. C'est un élément qui est important. Moi, je dirais simplement, pour ne pas allonger, que je m'étonne un petit peu, en étant en dehors du mouvement œcuménique, grosso modo, et par la grâce de Dieu, les évangéliques ont prospéré et sont devenus cette force avec laquelle aujourd'hui le mouvement œcuménique et des églises de tendance libérale, pour un bon nombre, sont obligés de compter. Nous avons grandi sans le mouvement œcuménique, pas par nos propres forces, je dis bien par la grâce de Dieu. Qu'avons-nous à gagner aujourd'hui à des compromis, à des dialogues dont on n'est pas certain qu'ils augmenteront le rayonnement de notre témoignage. Ce n'est peut-être pas le lieu de faire des statistiques, de savoir si c'est d'un côté ou de l'autre que le filet rapportera le plus de poissons, mais par la grâce de Dieu, l'accroissement a eu lieu sans le mouvement œcuménique. Et dans cette espèce de bouillon de culture qui constitue, moi j'ai peur qu'on attrape la gale.
Je crois que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, à cause du temps qui est arrivé prolongé, je signale que j'ai avec moi les notes d'un livre écrit par un non-évangélique, un pasteur américain de très grande autorité, intitulé « Les églises, les grandes églises et les évangéliques ». Une crise qui nous lance un défi, où cet homme explique et démontre très bien pourquoi les évangéliques ont tellement grandi, comment les autres églises ont décliné. Lui, il appelle un recentrage de ses vœux. Mais ça va dans le sens des paroles prononcées par M. Richard. Je dirais que notre souci ne doit quand même pas être qu'avons-nous à y gagner. Dans la mesure où moi je me prête au dialogue, c'est dans l'espoir de gagner mon frère. Ou des gens qui ne sont peut-être même pas encore nos frères en Jésus-Christ, mais qui peuvent le devenir, qui en tout cas, nous demandant une parole, me semble-t-il, nous sommes en dette à l'égard de tous.
Une parole n'est pas une association.
Non, une parole n'est pas une association. Eh oui, exactement. Oui, oui, oui,
oui. Non, mais ce qui est quand même frappant, c'est que dans le numéro de l'unité, où pour la première fois, cet organe qui est l'organe officiel, je crois, du courant œcuménique en France,
catholique,
la première fois où il invite les évangéliques à dire ce qu'ils sont, en leur laissant toute liberté pour le faire, l'éditorial qui ouvre ce numéro-là met en garde contre un prosélytisme de mauvais aloi. Et tout de suite, n'est-ce pas, c'est la chose qui est visée, c'est la chose qui est redoutée. Moi, je ne sais pas, ça me fait un peu dresser l'oreille. Alors, dans un de ses derniers bouquins, La subversion du christianisme, Jacques Ellul, qui défend enfin certaines idées que nous ne partageons pas nécessairement, dit quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que, en fait, un mouvement peut très bien apparaître comme moribond, ou ayant perdu toute sa vitalité, mais dans le temps qu'il s'est écoulé, le poison a quand même fait son effet. Il y a eu gauchissement des esprits, des mentalités. Et je dois dire que hier j'ai été un petit peu surpris en feuilletant le petit bulletin qui sert à l'enseignement des enfants ici dans notre église, de voir à l'une des pages un dessin qui représente l'arbre généalogique du protestantisme et qui nous situe, nous chrétiens évangéliques, dans l'une de ses branches. Je suis tout à fait d'accord avec ce dessin-là et avec le rappel. Là où je me préoccupe un petit peu, c'est qu'il y a à côté un petit chant, tous unis dans l'esprit, qui est tiré de J'aime l'Éternel, et qui a l'air de chanter, n'est-ce pas, d'encourager à l'unité, sans explication. Et ça passe, c'est passé, nous utilisons ça. Alors moi, je suis un petit peu surpris, je dois dire. Et si j'avais des petits-enfants à l'école du dimanche, je m'inquiéterais grandement, je le dis là.
C'est un courant
uniquo-évangélique. Oui, ça c'est donc une entreprise de rapprochement inter-évangélique. Et très, très militant, disons. Peut-être plus raide, plus vigilant par rapport à la Fédération protestante que ne l'est même l'Alliance évangélique.